Je vais prendre place et je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir au psaume 132. Cantique des montées. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il fit ce serment à l'Éternel, ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je couche, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici que nous en avons entendu parler à Ephrata. Nous l'avons trouvé dans la campagne de Yar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et ton arche imposante. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice, et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton Messie. L'Éternel a fait serment à David. En vérité, il n'y reviendra pas. C'est un de tes descendants que je mettrai sur ton trône. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours siégeront sur ton trône. Oui, Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour son habitation. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je comblerai de bénédictions ses ressources. Je rassasirai de pain ses pauvres. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs. Et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai un successeur à mon Messie. Je revêtirai de honte ses ennemis. Et sur lui brillera son diadème. Voici le texte qui est l'objet de la prédication, donc un texte de la parole de Dieu qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Et je vais encore lire deux textes qui font écho à certains sujets qui sont ici dans ce psaume. Le premier dans Ézéchiel 37, à partir du verset 24. Donc ce texte a été écrit après que David ait été roi. Donc on voit ici que c'est en fait une perspective à plus long terme. Où il est dit « Mon serviteur David sera le roi ». Et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs fils et les fils de leurs fils, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai. Et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Il y a un deuxième texte qui fait aussi écho, qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, qui indique de quel loin, ou de quel Messie, hein, puisque le Messie veut dire loin de Dieu, le Messie de Dieu, de quel loin il s'agit. Donc Luc 4, verset 18. Et là, c'est Jésus qui parle. Il est dans la synagogue à Nazareth. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ça, c'était dans le livre d'Ésaïe qu'il l'a lu. Il a dit, puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Aujourd'hui, il fait beau, il fait soleil. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il a pas mal plu. En voyant cette pluie, je me dis des fois, mais que se passerait-il s'il n'y avait pas d'eau? Pas d'eau du tout. Pas d'eau du tout. Eh bien, ce serait la mort assurée, en fait. Ce serait la mort assurée. Car pour avoir la vie, l'eau est un élément essentiel. Eh bien, de même, sans l'Esprit Saint, il n'y a aucune vie dans la lecture de la Bible. C'est comme un désert totalement inhabité dans lequel nous ne pourrions survivre. Mais avec le Saint-Esprit, la lecture de la Bible est comme un jardin luxuriant rempli de vie en abondance. Nous comptons donc tout à nouveau sur l'œuvre de l'Esprit-Saint pour comprendre cette parole de Dieu ce matin encore. Et j'aimerais maintenant faire travailler votre imagination. Imaginez. Imaginez que vous êtes en chemin pour vous rendre à votre future maison de rêve. Vous allez habiter avec tous vos bagages, tous vos biens. Dans cette magnifique maison, vous serez dans la présence de ceux que vous aimez. Imaginez même que vous êtes marié au plus merveilleux conjoint que vous puissiez concevoir. Quelqu'un de parfaitement aimant et totalement fidèle qui a fait une alliance avec vous. Et il remplira ce lieu choisi de sa présence. Et même si vous ne le verrez pas toujours physiquement, tout ce qu'il aura mis en place, en fait, vous rappellera sa présence. Alors, le voyage pour parvenir à cet endroit extraordinaire n'est pas facile et semble parfois long. Et là, pendant ce long déplacement, il est tellement bienfaisant de se rappeler que la maison existe. Elle a été choisie et construite avec passion. Tout ce que l'on verra rappellera la présence de celui qui sera avec nous et qui est si merveilleux. Et nous avons la garantie qu'il continuera à être fidèle et fera tout ce qu'il nous a promis. Vous arrivez à imaginer ça? En chemin vers cette maison de rêve. Et en fait, depuis quelques mois maintenant, nous cheminons guidés par la parole de Dieu dans les psaumes des montées, depuis le psaume 120. Et vous vous souvenez dans quelles circonstances les pèlerins chantaient ces psaumes? Dans quelles circonstances chantaient-ils ces psaumes? En fait, ils chantaient ces psaumes en se dirigeant vers Jérusalem. Vers Jérusalem, le lieu de la présence du Dieu de l'Alliance. Et nous avons déjà remarqué, depuis le psaume 120 jusqu'au psaume 131, que nous cheminons également, nous, comme pèlerins, et nous nous dirigeons vers la Jérusalem céleste, qui est la pleine manifestation de la présence du Dieu de l'Alliance. Et ce que nous comprenons, pour les pèlerins qui allaient à Jérusalem dès le temps de David, est un enseignement pour notre voyage de pèlerins qui nous conduit dans l'éternité. Et cette compréhension, nous désirons la saisir, conduite par le Saint-Esprit, à l'aide de toute la révélation de Dieu qui est maintenant complète. Et le psaume 132 est comme une porte d'entrée où nous voyons le lieu béni auquel nous soupirons. Et pourquoi je dis que c'est comme une porte d'entrée? C'est parce qu'après le psaume 133 et 134, qui sont les deux derniers psaumes démontés, sont des psaumes un peu différents, où il n'y a plus de difficultés. On a vu dans tous les autres psaumes, il y avait des difficultés, comme nous vivons des difficultés aussi dans notre voyage. Mais dans le psaume 133 et 134, c'est la joie de la présence de ceux qui sont de la même famille et le plaisir de bénir celui qui est notre maître. Il n'y a plus de difficultés. Voilà pourquoi je dis que le psaume 132 est comme une porte d'entrée à cette Jérusalem céleste. Le psaume 132 exprime le désir le plus ardent de tous les pèlerins, celui de voir Sion devenir la demeure stable et définitive de l'Éternel. Ce psaume nous parle donc du lieu désiré, de la manifestation de la présence de notre bien-aimé. Il nous parle également de l'Alliance qui nous garantit cet accès et l'accomplissement de tout ce qui est promis. Ce sont en fait les quatre points de notre prédication qui suivent le texte. Je vous invite d'ailleurs à avoir vos Bibles ouvertes dans le psaume 132 qui nous permettra d'y revenir régulièrement. Donc les quatre points de notre prédication seront le lieu désiré, qui seront les versets 1 à 5, la présence recherchée, qui seront les versets 6 à 9, l'alliance sûre, les versets 10 à 12, et l'accomplissement des promesses, les derniers versets. Et la prédication est intitulée « Le pèlerin aspire au lieu de la présence du Dieu de l'Alliance ». Le pèlerin aspire au lieu de la présence du Dieu de l'Alliance. Commençons par ce lieu désiré. Alors on va relire le texte, ces cinq premiers versets, pour vraiment nous en imprégner. Cantique des montées. « Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il fit ce serment à l'Éternel, ce vœu au puissant de Jacob. » Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je me couche, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Aujourd'hui, on va faire pas mal de liens avec l'histoire qui s'est passée au temps de David, puisqu'il y a des liens dans ce psaume, il nous parle de lui, donc on doit un petit peu faire des liens. Et lorsque David est entré dans son palais, lorsqu'il est devenu roi, il s'est rendu compte de la différence entre la maison qu'il habitait, faite de cèdre, et le lieu de présence de Dieu parmi son peuple. Et voici ce qu'il dit à l'un de ses amis, c'est dans 2 Samuel 7. Il dit au prophète Nathan, « Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre, alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente. » En fait, David ne voulait pas vivre dans un plus bel endroit que l'arche qui représentait la présence de Dieu parmi son peuple. David ne voulait pas vivre dans un plus bel endroit que l'arche qui représentait la présence de Dieu parmi son peuple. Et maintenant qu'il s'était rendu compte de cette différence, il était déterminé à donner un lieu digne pour son Dieu. Et les livres historiques ne nous rapportent pas ce qui s'est passé dans le cœur de David. Mais ce psaume 32 le fait ici. Il nous indique que David ne se donnait pas de repos jusqu'à ce qu'il ait trouvé un lieu pour l'Éternel. Il voulait que le puissant de Jacob, hein, on voit ces parallélismes hein, quand il est parlé ici de l'Éternel, puissant de Jacob, c'est la même personne. Hein, il voulait que ce puissant de Jacob, son propre Dieu, en fait, puisse demeurer dans un lieu adéquat. Nous ne trouvons nulle part ailleurs, d'ailleurs, une allusion à un serment que David aurait fait de construire la maison à l'Éternel, mais le fait que ce psaume le souligne, il est dit au verset 2, il fit ce serment, hein, il le souligne, nous indique que c'était très important pour David d'avoir un lieu de présence pour l'Éternel adéquat. Et le pèlerin qui chante ce psaume, en fait, se réjouit que David a initié la construction de ce lieu. Il en a fait les plans. Vous pouvez lire ça dans 1 Chronique 28. Il a préparé de grandes quantités de matériel afin que son fils désigné par Dieu pour cette tâche puisse faire ses travaux importants. Et voici ce qui est dit dans 1 Chronique 22. David dit « Que l'on réunisse les immigrants qui étaient dans le pays d'Israël. Et il chargea des tailleurs de pierre de couper des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. David prépara aussi du fer en abondance. » Pour les clous, des battants, des portes, et pour les crampons, du bronze en quantité, tel qu'il n'était pas possible de le peser, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens, les Tyriens, avaient amené à David des bois de cèdre en quantité. David disait, « Mon fils Salomon est jeune et délicat, or la maison qui sera bâtie à l'Éternel élèvera sa renommée et sa splendeur bien haut dans le pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui les préparatifs. » Ainsi, David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Donc le pèlerin, en chantant ce psaume 132, se rappelle de la genèse de la construction du temple et demande à Dieu de se souvenir de David et de toute la peine qu'il s'est donnée et que Dieu a appréciée. Parce que c'est vers ce lieu qui était si cher à David qu'il se dirige. Et nous pouvons souligner deux choses dans cette première partie. La première chose, que je n'ai encore pas mentionné, mais qui est dans le texte, c'est la demande à l'Éternel de se souvenir. Hein? C'est le premier verset. Éternel, souviens-toi de David. La demande à l'Éternel de se souvenir, la première chose, et la deuxième chose, l'ardeur de trouver un lieu adéquat pour l'Éternel. L'ardeur de trouver un lieu adéquat pour l'Éternel. Alors, à propos de la demande de se souvenir, si vous cherchez dans votre Bible ce qui s'est passé lorsque Dieu se souvient, peut-être déjà lu dans des textes hein, qui dit « et Dieu se souvint ». Ça vous dit quelque chose? Par exemple, Dieu se souvint de Noé et mit un terme au déluge. Genèse 8:1. Ou « Dieu se souvint d'Abraham et fit échapper Lot du milieu du désastre ». Genèse 19, 29. Où Dieu se souvint de Sarah, Genèse 21, de Rachel, Genèse 30, d'Anne, 1 Samuel 1, et leur donna un enfant. Ou encore, Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et il délivra son peuple d'Égypte. Exode 2, 24. Est-ce que Dieu avait perdu la mémoire? Est-ce qu'il était oublieux? Non. Dieu sait tout, il n'oublie rien. Mais cette façon de parler indique qu'il s'agit d'actions particulières pour les personnes concernées afin de les délivrer d'une situation dramatique. Et le pèlerin, en demandant à Dieu de se souvenir de David, lui demande en fait de se souvenir de l'alliance qu'il a faite avec David. comme le souvenir de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob a été la base de la délivrance de l'Égypte. On l'a lu avant dans Exode 2, 24. David était la dernière personne, après Noé, Abraham, avec qui Dieu avait fait une alliance particulière. Nous trouvons cela dans 2 Samuel 7, nous y reviendrons. Et le pèlerin s'appuie sur ce serment, sur lequel il reviendra plus tard dans la prière. Il s'appuie sur ce serment. Il dit « Seigneur, souviens-toi de David ». Souvenons-nous déjà ici que nous aussi, nous pouvons rappeler des choses au souvenir de Dieu. Et que nous pouvons nous appuyer sur ce qu'il a dit et sur la dernière personne avec qui il a fait une alliance. C'est Jésus-Christ. Nous le verrons tout à l'heure. Mais la première chose, donc la demande à l'Éternel de se souvenir, et nous pouvons aujourd'hui encore en 2016 demander à l'Éternel de se souvenir. La deuxième chose à retenir, c'est l'ardeur de trouver un lieu adéquat pour l'Éternel. David qui, quelque part, disait « Je ne donne pas de sommeil jusqu'à ce qu'il puisse y avoir un lieu pour l'Éternel. » Eh bien, Jésus a très bien illustré cela en parlant de cet homme qui avait trouvé un trésor dans un champ. Souvenez de cette histoire. Il a trouvé un trésor dans un champ qui ne lui appartenait pas. Il a tout vendu ce qu'il avait. Je pense qu'il a pas dormi. Il s'est dit « Il faut que je vende tout. Il faut absolument que j'achète ce champ. » Il a tout vendu pour acheter ce champ où était le trésor. Et en fait, c'est un défi qui nous est donné ici, une exhortation à mettre en fait toute notre ardeur pour un trésor bien plus grand qui est la présence de Dieu. Mettre toute notre ardeur pour que Dieu soit présent parmi nous. Et Jésus a tout accompli pour que cela soit possible, pour que Dieu soit parmi nous. Et nous sommes appelés à vivre dans la repentance et la foi pour en bénéficier. Est-ce que nous nous couchons, est-ce que nous donnons du sommeil sur notre colère? Ou est-ce que nous ne donnons pas de sommeil à nos yeux jusqu'à ce que nous nous soyons repentis? Parce que c'est ainsi que nous trouvons un lieu pour l'Éternel. Donc ces deux choses, la demande à l'Éternel de se souvenir et l'ardeur de trouver un lieu adéquat pour l'Éternel. Après le lieu désiré par le pèlerin, continuons ce merveilleux cantique pour mieux comprendre ce qu'il cherchait dans ce lieu. C'est le deuxième point, la présence recherchée dans les versets 6 à 9. Avant de lire ces versets, j'aimerais juste vous donner quelques éléments. Il est utile de comprendre que l'arche de l'Alliance est le symbole de la présence de Dieu. Et l'arche de l'Alliance peut aussi être appelée le marchepied de Dieu. Cette arche était à Kiriath Yearim, qui est dans la campagne de Yar. Et ce sont les sacrificateurs qui doivent la porter. Avec ces quelques éléments, maintenant qu'on va relire le texte, ça va donc avoir un peu plus de relief. Lisons ce texte, verset 6 du psaume 132. « Voici que nous en avons entendu parler à Ephrata. Nous l'avons trouvé dans la campagne de Yar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi, et ton arche imposante. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. » L'arche de l'Alliance est aussi appelée l'arche du témoignage, comme nous l'avons dit, et représente la présence de Dieu parmi son peuple. Elle était placée... où était-elle placée? Où est-ce que cette arche était placée? Vous vous souvenez? Elle était placée dans le lieu très saint du tabernacle, ou plus tard, du temple. Cette arche, c'était une boîte en bois d'acacia recouverte d'or pur, surmontée d'un couvercle particulier que l'on appelait le propitiatoire, qui était d'or massif. Et ce couvercle avait la particularité d'être surmonté par deux chérubins qui se faisaient face d'un côté et de l'autre du couvercle. Et la Bible nous dit que la gloire de l'Éternel se manifestait entre les deux chérubins. C'est là que l'Éternel rencontrait son peuple. La gloire de l'Éternel se manifestait entre les deux chérubins. C'est là que l'Éternel rencontrait son peuple. Le souverain sacrificateur entrait une fois par année dans le lieu très saint où se trouvait l'arche et offrait un sacrifice pour son péché, pour le péché du peuple. Et il aspergeait le propitiatoire avec le sang du taureau sacrifié afin de rendre Dieu propice envers le peuple, afin que l'Éternel soit favorable envers lui, hein, d'où le nom de propitiatoire. Et en entrant dans ce lieu très saint où se trouvait l'arche de l'Alliance, le souverain sacrificateur brûlait de l'encens, et ce nuage de parfum était le symbole des prières acceptées par Dieu. Alors si j'ai pris ces quelques instants pour vous expliquer cela, c'est pour que nous soyons conscients de l'importance de l'arche de l'Alliance, qui est le lieu de rencontre de Dieu avec son peuple. Mais où était l'arche du temps de David? Où était cette arche? Eh bien, elle n'était pas dans le tabernacle, ni dans le temple qui n'était pas encore construit. En fait, 20 ans avant que Saül ne devienne roi, les Israélites ont utilisé l'arche de l'Alliance comme porte-bonheur. Ils se sont dit, on a des problèmes avec les Philistins qui sont en train de nous battre, on va chercher l'arche de l'Alliance, et ainsi on va gagner. Mais Dieu n'est pas l'arche de l'Alliance n'est pas un porte-bonheur. C'est un lieu de rencontre de l'Éternel avec son peuple. Et Dieu a permis que les Philistins gagnent la bataille et qu'ils prennent l'arche de l'Alliance chez eux. Or, mal leur en a pris, hein. Une énorme statue de pierre est tombée devant l'arche. Alors, ils ont relevé la statue et elle est retombée devant l'arche. Ils ont déplacé l'arche à différents endroits. Et à chaque endroit où l'arche allait, c'était une catastrophe au niveau médical. Et les Philistins ont fini par comprendre que l'objet qui représentait la présence de Dieu était la cause de leurs problèmes. Et ils ont même fait un dernier test pour être sûr que ce n'était pas venu par hasard, mais bien de ce coffre. Le test, c'était d'atteler des vaches allaitantes à un char où ils mettraient le coffre et de les faire partir, loin de leur veau. Ce qu'une vache ne fait jamais. Et le test a parfaitement fonctionné. C'est ainsi que l'Arche de l'Alliance est revenue en Israël sur un char. Et David en a sûrement entendu parler lorsqu'il était enfant à Bethléem, car c'est proche de Kiriath Meraïm, hein, c'est dans la même région. Mais cela s'est passé bien avant sa naissance. Et d'après mes calculs, ça devait faire environ 30 ans avant la naissance de David. L'Arche de l'Alliance était donc depuis près de 70 ans à Kiriath Yarim, lorsque David la déplaçait à Jérusalem, lorsqu'il est devenu roi de tout Israël. Hein, puisqu'il est devenu roi de tout Israël lorsqu'il avait 37 ans. Ça ferait 67 ans environ, 70 ans. Donc l'Arche de l'Alliance était donc depuis près de 70 ans à Kiriath Yarim, lorsque David l'a déplacé, l'a fait revenir à Jérusalem, au milieu de son peuple, lorsqu'il est devenu roi de tout Israël. Hein, parce que David, en fait, dès qu'il est devenu roi de tout Israël, il a conquis Jérusalem, hein, et tout de suite après, il a fait venir l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Et en fait, c'est une des choses les plus glorieuses, si ce n'est la plus glorieuse que David a fait, en fait, dans son règne. Faire revenir l'arche, la présence de Dieu, au milieu de son peuple. Et cela s'est fait dans de grandes réjouissances. Il se souvient également qu'on ne peut pas s'approcher de la présence de Dieu n'importe comment. Il s'est rendu compte, quand il a fait revenir l'arche la première fois, Il n'a pas respecté ce que la parole de Dieu dit pour le transport de l'arche et il y a eu un mort. C'était dur pour David. Mais 3 mois plus tard, l'arche est quand même venue à Jérusalem où il a justement fait porter les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance jusqu'à Jérusalem. Il faut que les sacrificateurs soient revêtus de justice, ce qui signifie purifiés par le sacrifice. Et ils portent l'arche de l'Alliance. Ce n'est pas un char qui doit... Et lorsque David a fait ce qui était juste selon l'Éternel, ce fut la joie, les réjouissances de tous les fidèles qui poussaient des cris de joie. Lui dansait même devant l'arche qui allait à Jérusalem. Vous vous souvenez peut-être, et sinon, vous pouvez relire tous les détails dans 2 Samuel 6 ou 1 Chronique 13 et 15. En regardant ce texte du psaume 132 qui nous parle de ces éléments-là, nous pouvons souligner 2 choses de cette deuxième partie. La première, c'est l'importance de la présence de Dieu pour le croyant. Pour David, c'était important que cette arche soit là, donc la manifestation de la présence de Dieu. L'importance de la présence de Dieu pour le croyant. Et deuxièmement, la justice nécessaire et la joie qui découle de la présence de Dieu. Donc David en a entendu parler, il l'a cherché, hein, donc verset 6, hein, il l'a cherché, il l'a trouvé, et ainsi il l'a ramené au milieu du peuple. Cherchons-nous également la présence de Dieu parmi son peuple, qui est l'Église? Pour Jésus-Christ, la présence de Dieu était le plus important. Pour Christ, le fait qu'il soit dans la présence de Dieu, c'était le plus important. Ça, j'aimerais qu'on puisse vraiment le saisir. Mais il a consenti à être abandonné du Père pour que son peuple ne le soit plus jamais. Que prenons donc l'importance de la présence de Dieu? Quant à la justice nécessaire et la joie qui découle de la présence de Dieu, cela nous indique comment nous approcher de lui, avec humilité, revêtu de la justice de Christ, et rempli de reconnaissance et de joie. En fait, ça devrait être notre attitude chaque fois qu'on se retrouve devant Dieu, et particulièrement aussi à l'Église. On vient dans un sens humblement en disant « mais je ne suis pas digne de venir devant ce Dieu ». Et en même temps, je saisis l'œuvre de Christ qui a tout accompli et je me réjouis de me retrouver devant ce Dieu qui m'accueille et qui me dit même qu'il est mon Père. Donc vivons selon l'habit de justice qui nous a été donné en Christ et réjouissons-nous du privilège immense que nous avons de nous approcher de Dieu. Le pèlerin, en chantant ce psaume 132, est rempli de désir de se trouver dans ce lieu et il cherche la présence de Dieu. Mais sera-t-il accepté? Son Messie ne sera-t-il pas repoussé? Sur quelle base peut-il continuer son chemin confiant? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie de ce psaume que j'ai scindé en deux points. Le premier soulignera l'importance de l'alliance et le second, la fidélité de Dieu. Donc l'alliance sûre, c'est les versets 10 à 12. Relisons ces versets. « À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton Messie. » L'Éternel a fait serment à David. En vérité, il n'y reviendra pas. C'est un de ses descendants que je mettrai sur ton trône. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours siégeront sur ton trône. L'Éternel a fait un serment à David. Cela a été mentionné dans la première partie. Hein, comme nous l'avons dit, nous revenons sur ce sujet maintenant. Et afin d'être dans le contexte, je vous invite à garder peut-être un petit doigt au psaume 132 et d'aller dans 2 Samuel 7. 2 Samuel 7, donc c'est avant, hein, dans la Bible, dans 2 Samuel 7. Nous lisons à partir du verset 1. Donc quand on parle du roi ici, c'est David. « Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan, « Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente ?» Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » C'est ce qu'on a vu dans la première partie de ce psaume 132. Continuons. Pour cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. Partout, je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un mot à quelqu'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple d'Israël ? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? » Intéressant ici. Les paroles de l'Éternel soulignent qu'en fait, il ne demandait pas ça à David. En fait, David aimait tellement l'Éternel qu'il allait faire même encore plus que ce qui lui était demandé. Mais maintenant, l'Éternel va d'abord dire à David que c'est lui qui lui bâtira une maison. Et il viendra sur le sujet du bâtiment de David après. Continuons le verset 8. « Maintenant, tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le conducteur de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai retranché tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il y demeure et ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Voilà, on a le contexte maintenant. Nous ne voyons pas, c'est vrai, le terme alliance ou serment dans ce texte. Pourtant, le psaume 132 parle de serment. Et David, à la fin de sa vie, dit même dans 2 Samuel 23, « N'en est-il pas ainsi de ma maison avec Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point réglée et gardée ?» En fait, lorsque Dieu parle, c'est la vérité. C'est la vérité. Et ça a même valeur de serment. Et s'il précise parfois, si Dieu précise parfois qu'il fait un serment, ce n'est pas que certaines paroles sont plus sûres que d'autres. C'est simplement que la personne avec qui il fait alliance comprenne l'importance de ses promesses pour lui. Et le pèlerin qui chante le psaume 132 le reconnaît et il dit clairement « L'Éternel a fait serment à David, en vérité, il n'y reviendra pas. » C'est écrit au verset 11, si jamais du psaume 132 où on est revenu maintenant. « L'Éternel a fait serment à David, en vérité, il n'y reviendra pas. » Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Et c'est notre assurance. C'est notre assurance. S'il a dit, je le crois. S'il l'a dit, je le crois. Même si mon intelligence, mes sentiments et ma volonté voudraient dire le contraire. Ce que Dieu dit, je le crois. Parce que tout ce que Dieu dit est vrai. Et s'il dit que celui qui se repent et croit en Jésus-Christ est sauvé, si tu te repens et tu crois, tu es sauvé. Il l'a dit et nous le croyons et c'est notre assurance. La parole de Dieu est vraie ou il n'est pas Dieu. Hein? Cette importance de la parole de Dieu, ce qu'il dit, c'est vrai. Et c'est en fait notre assurance et sur cela que nous nous appuyons. Et dans le psaume 132, il est question aussi ici de trône. Sur lequel Dieu mettra quelqu'un. Et il est intéressant de constater qu'il est question, on pourrait voir ici même deux trônes. Le premier est mentionné sans condition au verset 11. Et il indique une action que Dieu fera, quoi qu'il arrive. Et nous savons, ayant l'histoire et la révélation complète entre nos mains, qu'un descendant de David est sur le trône maintenant. C'est Jésus-Christ. Cette personne ne mourra plus jamais. La promesse que Dieu a donnée en 2 Samuel 7, et qu'on voit ici aussi au verset 11 du psaume 132, est accomplie. Ce que Dieu dit, il le fait. Mais nous voyons une deuxième mention du trône au verset 12. Mais là, il y a une condition, celle d'observer l'alliance et les préceptes de Dieu qui renvoient à l'alliance que Dieu a faite avec le peuple du temps de Moïse. Les descendants de David... ont-ils observé l'alliance et les préceptes que l'Éternel leur enseignait? Certains, par la grâce de Dieu, c'est vrai. Mais d'autres, malheureusement, non. Et c'est pour cela que depuis 586 avant Jésus-Christ, parce qu'en fait, on est aussi dans l'histoire vraie, hein, c'est un récit qui est réel, donc 586 avant Jésus-Christ, qui correspond à la date de la déportation à Babylone, il n'y a plus de roi sur le trône à Jérusalem. Parce qu'en fait, là, il y avait une condition qui n'a pas été respectée. Par contre, pour avoir un roi de manière éternelle, hein, de la lignée de David, c'est Jésus-Christ et c'est totalement accompli. Ce que Dieu dit, il le fait. Il me semble encore utile de bien comprendre ce que nous avons esquissé dans notre premier point. Pourquoi le pèlerin s'appuie-t-il sur cette alliance avec David ? Pourquoi il ne s'appuie pas sur l'alliance avec Noé ou avec Abraham ou encore sur l'alliance avec le peuple d'Israël du temps de Moïse? Parce que s'il s'appuie sur la dernière alliance spécifique qui se fonde sur toutes les autres, en fait, il se fonde sur toutes. En mentionnant l'alliance avec David, le pèlerin s'appuie sur toutes ces alliances à la fois. Hein, pour comprendre un petit peu cette notion d'inclusion, je donnerai peut-être une illustration. Lorsque je me dis... Lorsque je dis que je m'appuie, ou quelqu'un dit que je m'appuie sur la Suisse, Cela signifie que je m'appuie sur les cantons, sur les communes et les citoyens suisses. La Suisse n'existe pas sans les cantons, ni les cantons sans les communes. Comme l'alliance de David n'existe pas sans l'alliance avec le peuple d'Israël, qui n'existe pas sans l'alliance avec Abraham. Vous comprenez pourquoi, en fait, il s'appuie sur l'alliance de David. Alors, en regardant le texte biblique, nous pouvons souligner à nouveau deux choses dans cette troisième partie. Dieu accomplit ce qu'il dit. Et deuxièmement, en nous appuyant sur la dernière alliance, nous nous appuyons sur toutes celles qui ont précédé. En nous appuyant sur la dernière alliance, nous nous appuyons sur toutes celles qui ont précédé. Et par rapport au premier élément, que Dieu accomplit ce qu'il dit, c'est un puissant fortifiant pour notre foi. Ce que Dieu dit, il le fait. Or, il y a des choses qu'il a dites qui se sont passées, donc ça fortifie notre foi. Il y a des choses qu'il dit qui vont se passer, eh bien nous le croyons. Ce qu'il dit, il le fait. C'est un puissant avertissement lorsque nous péchons. Dieu fait ce qu'il dit. Donc lorsque nous péchons, si nous sommes des enfants de Dieu, il nous corrige. Et si nous péchons et que nous ne sommes pas des enfants de Dieu, eh bien nous sommes sur le chemin du jugement éternel. Ce que Dieu dit, il le fait. Mais quel puissant aussi réconfort pour notre espérance. Ce que Dieu dit, il le fait. S'il dit qu'il nous prépare une place où nous serons dans cette... Ce n'est même pas juste une maison idyllique, hein, ça sera encore bien mieux. Mais il le fait. Et concernant l'alliance, sur quelle alliance vous reposez-vous? Quelle est la dernière alliance en date qui, en un sens, contiendrait toutes les précédentes? Eh bien, Dieu s'est fait homme et il est venu sur terre. C'est l'événement le plus extraordinaire qui s'est produit sur notre planète depuis qu'elle existe. Je crois qu'on ne se rend pas toujours vraiment compte, hein, mais le fait que Dieu est venu sur terre, c'est l'événement le plus extraordinaire qui s'est passé sur cette planète. Ce Dieu fait homme s'appelle Jésus-Christ, comme vous le savez. Et Jésus-Christ est venu accomplir toutes les conditions de l'ancienne alliance qui contenait en fait toutes les alliances de l'Ancien Testament. C'est donc lui qui a reçu tout ce qui était promis par ces alliances, qui était une image, un type d'une alliance plus grande. Et cette alliance plus grande, que nous appelons aussi l'alliance de grâce, a été conclue entre le Père et le Fils. Le Père a conclu une alliance avec le Fils. Comme Dieu a conclu une alliance avec David, le Père a conclu une alliance avec le Fils. Et dans cette alliance, Jésus en parle, par exemple, de sa prière sacerdotale dans Jean 17, et il dit « Ce que tu m'as donné ». Ça fait partie de l'alliance. Le Père a donné un peuple à son Fils dans le cadre de cette alliance. C'est l'alliance dont il est parlé dans Jérémie 31 aussi, par exemple. Jésus dit à ses disciples que son sang est un sang d'alliance, cette alliance avec le Père qui lui donne un peuple. C'est pour cela que l'Église est appelée un peuple d'alliance, un peuple de l'alliance. Lorsque nous prions le psaume 132 comme le pèlerin, nous nous basons donc sur la dernière alliance. Pour lui, c'était l'alliance avec David. Pour nous, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. Lorsque nous prions le psaume 132, comme le pèlerin, on se base sur la dernière alliance. Pour lui, c'était David. Pour nous, c'est celle avec Jésus-Christ. Et si le pèlerin était si certain que la parole de Dieu, c'est parce qu'il avait l'assurance de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et c'est la dernière partie du psaume 132 que nous verrons courtement, qui fait un écho, comme une réponse à la prière de David. Les versets 13 à 18. Écoutez bien ce qu'ils disent, ces versets. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Hein, il y avait un désir, et le voilà. Il l'a désiré pour son habitation. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je comblerai de bénédictions ses ressources, je rassasirai de pain ses pauvres. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai un successeur à mon Messie. Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera son diadème. Nous allons voir les quelques éléments que nous trouvons ici dans ce texte. Premièrement, le lieu de la présence de Dieu. Le lieu de la présence de Dieu. David désirait trouver un lieu, une demeure pour le puissant de Jacob. L'Éternel a choisi Sion pour y habiter. Le temple a été construit, l'arche de l'Alliance y était déposée. Et plus tard, où est-ce que Dieu fait homme est venu dans ce monde? Il est venu dans ce monde, dans ces mêmes lieux. Jésus est venu sur la terre, en Palestine, il y a habité, il était aussi à Jérusalem. Le lieu de la présence de Dieu. Et si nous allons encore un peu plus loin, le lieu de la présence de Dieu, eh bien, il est dans son Église, il est même en nous par son Esprit. Deuxièmement, nous voyons les bénédictions ici qui sont promises, que Dieu accomplit. Hein, les bénédictions. L'Éternel promet de pourvoir aux besoins du peuple. Tant que le peuple a été fidèle, il n'a pas eu faim. Quand Jésus est venu en Palestine, il a guéri une foule de malades et il a rassasié des foules de pain. Et il a même dit qu'il était lui-même le pain de vie, duquel nous pouvons encore aujourd'hui nous nourrir. Troisièmement, il est parlé de la justice et de la joie, hein, en lien avec cette présence de l'Éternel. Eh bien, David demandait au verset 9 que les sacrificateurs soient revêtus de justice. L'Éternel, il est dit au verset 16, « L'Éternel revêt de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. » Et là, si je vais directement à l'application vers Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, a accompli l'œuvre de salut. Ainsi, tous les autres sacrificateurs peuvent revêtir le salut en Jésus-Christ. D'ailleurs, le Nouveau Testament appelle les chrétiens un saint sacerdoce, un sacerdoce royal qui offre des sacrifices spirituels. Et dernier élément, il est question du successeur victorieux, le successeur victorieux. Selon son alliance, l'Éternel prépare un successeur à celui qui l'a oint. Hein? Quand on dit le Messie, celui qui est oint, c'est la même chose, c'est un synonyme. Donc, l'Éternel prépare un successeur à celui qui l'a oint pour la royauté. Et ce successeur, c'est Jésus-Christ, qui est le roi victorieux de la mort et qui a vaincu tous ses ennemis. Il a vaincu par l'amour, par la mort, par sa résurrection, des armes contre lesquelles aucun ennemi ne peut tenir, ils ne peuvent qu'avoir honte. Jésus-Christ, qui est vainqueur, reviendra dans la gloire. Il sera revêtu de la couronne de gloire, le diadème brillera et il régnera pour l'éternité. Le psaume commençait en disant, « Éternel, souviens-toi de David et de toutes ses peines. » Et cette phrase résume et introduit bien tout ce qui sera dit dans ce psaume, qui se concentre sur le lieu que David a voulu construire à l'Éternel, le retour de l'arche et l'alliance conclue avec David. Et je vous propose maintenant une autre phrase qui résume et applique ce psaume à notre situation. Éternel, souviens-toi de Jésus-Christ et de toutes ses peines. Jésus-Christ construit le lieu de la présence de Dieu qui est son Église. Réjouissons-nous donc d'y participer et de nous y épanouir pour sa gloire. Jésus-Christ fait venir la présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Agissons donc avec la sagesse et vivons dans la sainteté et la consécration basée sur son œuvre. Et troisièmement, Jésus-Christ accomplit les termes de l'Alliance éternelle. Vivons donc notre foi avec un esprit paisible parce que cette alliance est inviolable. Toutes les conditions ont été remplies. Et vous savez que dans une alliance, on le voit à l'étude biblique le jeudi soir, puisqu'on est dans Deutéronome, lorsque toutes les conditions sont remplies, en fait, il n'y a plus de malédiction du tout. Toutes les conditions ont été remplies. Donc louons notre Seigneur qui manifestera bientôt sa gloire lors de son avènement. Sommes-nous prêts à le rencontrer? Donc rappelons-nous, Éternel, souviens-toi de Jésus-Christ et de toutes ses peines. Prions. Notre Père, notre Dieu, quelle grâce de pouvoir lire ta parole. Quelle grâce de pouvoir lire ces psaumes des montées qui nous invitent à réfléchir sur le cheminement des pèlerins qui allaient à Jérusalem et qui nous aident aussi, nous incitent à réfléchir sur notre propre cheminement jusqu'à la Jérusalem céleste. Nous te remercions pour ce psaume qui nous guide vers toi. Ce psaume aussi qui nous fait sortir ce cri du cœur éternel, « Souviens-toi de Jésus-Christ et de toutes ses peines. » Tu vois, ce, Ces pèlerins qui, pendant de nombreuses années, disaient de te souvenir de l'alliance de David, qui ainsi se rappelaient de la genèse de ce temple qui a été construit, de ta présence manifestée par l'arche de l'alliance, de cette alliance que tu as faite et dont ils avaient confiance aussi que tu allais l'accomplir. Et Seigneur, nous sommes maintenant dans une situation où tu construis aussi ton lieu de présence. Merci pour l'église que tu construis. Ô Seigneur, nous sommes bien tremblants en pensant que c'est le lieu de ta présence. Mais Seigneur, nous le faisons en nous appuyant sur cette alliance avec Jésus-Christ, qui a tout accompli, et en lui, nous pouvons nous approcher de toi librement. Oh, quelle grâce de savoir que, Seigneur, tu es parmi nous, permet que nous puissions lire et relire ce psaume 132 en nous souvenant que tu es un Dieu qui fait ce que tu dis, qui accomplit ce que tu as promis. Oh, sois loué, sois béni, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.